Slate Podcast.
Bonjour Lucille.
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 Chère Lucille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est notre second talk que c'est compliqué de la saison. Cette année, un épisode sur quatre est au format discussion. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie De Broer, autrice et réalisatrice du documentaire La grosse vie de Marie sur France TV Slash. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et Noline Cerdas, journaliste et créatrice du podcast Beauté et Bien-être Parlons B. Bonjour Noline.
Salut.
Alors, je vais ouvrir sur une citation de Mona Chollet. C'est souvent la question quand on parle de grandes questions un peu féministes aussi. Hein. On revient toujours un peu à citer Mona Chollet. Je vais citer Beauté fatale, les nouveaux visages de l'aliénation féminine, qui était un de ses best-sellers, vraiment, un grand livre, en plus vraiment très intéressant sur plein de questions liées au physique des femmes et à la séduction. Donc voilà, je cite. La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres, traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Elles les amènent à tout accepter de leur entourage, à faire passer leur propre bien-être, leurs intérêts, leurs ressentis après ceux des autres, à toujours se sentir coupable de quelque chose, à s'adapter à tout prix, au lieu de fixer leurs propres règles. À ne pas savoir exister autrement que par la séduction, se condamnant ainsi à un état de subordination permanente, à se mettre au service de figures masculines admirées, au lieu de poursuivre leur propre but. Ainsi, la question du corps pourrait bien constituer un levier essentiel, la clé d'une avancée des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences conjugales à celle contre les inégalités au travail, en passant par la défense des droits reproductifs. Alors j'ai voulu citer cet extrait de Beauté fatale parce que ça montre que déjà la question de la beauté et de la beauté des femmes n'est pas une petite question. T'en parles, Noline, dans ton podcast, tu dis que c'est vraiment pas un petit sujet. Et aussi parce que la question du self-care en particulier, qui est quelque chose qu'on a beaucoup valorisé chez les femmes, il faut prendre le soin de soi, prendre le temps pour soi, via plein de choses, en l'occurrence activités, produits, c'est quelque chose qu'on ne pousse pas un peu que chez les femmes, pas forcément chez les hommes. Donc le self-care regroupe beaucoup de ces questions esthétiques et bien-être, que ce soit par l'achat de produits de beauté, de crème, d'un temps pour soi, d'activités dont le but est d'atteindre le fameux « un esprit sain dans un corps sain ». Seulement, on pourrait aussi se demander pourquoi c'est principalement les femmes qui se posent la question du self-care. Et est-ce que le self-care, c'est pas juste traîner chez soi en pyjama avec les cheveux gras, en mangeant des chips, au petit-déj, au déjeuner et au dîner? Est-ce que c'est pas aussi ça, Marie?
Personnellement, c'est principalement ça. Moi, je pense que je pratique le self-care en me laissant le temps d'arrêter de réfléchir. Et donc, ça passe pas forcément, moi, par prendre soin de mon corps, de mon visage, d'aller au sport ou des choses comme ça. Ça va être plus d'écouter de la musique, regarder, m'évader dans des œuvres, etc. Donc, je pratique le self-care de cette manière-là. En tout cas, ce que je nomme self-care, après, je mets de la crème hydratante si les auditeurs et les auditrices se posent la question.
C'est vrai qu'on valorise plutôt, on le voit dans les magazines, la question du self-care. À l'origine, il y avait vachement, c'était des hashtags sur les réseaux sociaux et les féministes en ont beaucoup parlé. C'était quelque chose qui était censé être quelque chose d'empouvoirment des femmes. Et puis après, ça a été repris évidemment par les journaux féminins, par la culture de masse. On valorise plutôt le self-care à base de yoga et de crème qui coûte 500 balles. Ça pose la question de la normalisation justement de ce self-care et de pas savoir pour soi ce que c'est vraiment. Et puis se sentir un peu mal aussi, se dire « Ah moi, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de faire du sport, j'ai pas besoin de faire du running, j'ai pas besoin de faire du yoga. » Et effectivement, juste traîner chez moi, ça me fait me sentir bien parce que j'ai pas les bruits de la ville, les bruits du travail. Est-ce que cette question des mêmes gestes pour tous et toutes qu'on met en avant, et en l'occurrence je dis tous et toutes, mais c'est surtout toutes, c'est un problème aujourd'hui, Noline?
Oui, parce que dans le sens où si on s'adresse qu'à un seul groupe de personnes, oui, alors je trouve qu'en soi c'est un problème. Après, cette notion de self-care, je pense qu'elle est quand même très récente. Et moi qui viens de la presse féminine classique, j'y suis que depuis, ça fait 6-7 ans vraiment que j'étais dans la presse féminine. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore vraiment cette notion de self-care, tu vois. C'était vraiment le maquillage, le parfum pour se faire du bien ou pour se rendre belle pour les autres. Mais la notion de self-care, elle est arrivée, je pense, il y a vraiment ces 3-4 dernières années quand on a commencé à parler de l'holistique. Donc en fait, tu mets une crème, oui, tu mets du maquillage, mais en fait, pour remettre un peu de sens dans tes gestes et pas forcément, je pense, le faire pour les autres, pour plaire aux autres, mais aussi pour toi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'arrivée vraiment du self-care dans la presse. Et ça s'est ensuite vraiment ouvert sur faire des massages, faire du sport, de considérer ça vraiment comme une façon de prendre soin de soi en plus de se maquiller ou que de, de se soigner à base de crème et compagnie.
Tu disais que ça touchait qu'une partie de la société.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, de ce fait, ça touche quand même essentiellement les femmes. Mais à mon avis, du fait de cette volonté d'ouverture d'esprit et d'élargir un peu les sujets, l'idée, c'est aussi d'englober un maximum de personnes, parce que en même temps que ce self-care qui est arrivé et de cet aspect holistique, eh ben on a eu tout ce qui était de l'approche plus mixte, de l'approche plus englobante, et donc ça comprend aussi bien les femmes de tous les domaines et pas que les femmes filiformes qu'on pouvait voir dans les magazines. L'idée, c'était de s'ouvrir, et l'idée aussi, c'est d'être plus inclusif, donc du coup inclure également des personnes qui se considèrent pas forcément comme femmes cis, ou l'idée aussi d'avoir les hommes. Mais entre la théorie et ce qu'il y a culturellement parlant, bah il y a quand même encore un gap, quoi.
On va parler de l'holistique, puisque tu l'as mis sur la table. C'est quelque chose qui aujourd'hui commence à être un petit peu réfléchi, parce que effectivement ces dernières années où on a parlé de self-care, on a parlé un peu du pouvoir des pierres, de la mémoire de l'eau, de toutes ces ce qu'on appelle un peu des pseudo-sciences aussi. Bon, il y a eu tout un temps où il a été estimé que c'était pas très grave. En fait, que c'était pas, que les gens croyaient un peu en ce qu'ils voulaient et que bon, ça changeait pas grand-chose au problème. Et puis là, récemment, il y a quelques mois, il y a eu un rapport de la Miviludes sur plusieurs groupes de yoga qui menaient à des pratiques sectaires liées à justement faire du jeûne, des choses qui étaient assez violentes pour le corps et qui pouvaient être assez violentes psychologiquement aussi pour les gens qui le pratiquaient. Là, on est en train de dire oui, finalement, glander chez soi, c'est bien, les crèmes, c'est bien, avoir des pierres qui ont du sens et qui ont des pouvoirs supposés, c'est bien. Mais on en arrive quand même aussi, même sur un sujet aussi soi-disant léger, à des choses qui sont vraiment très graves. Comment on fait la part des choses là-dedans? En l'occurrence, Noline, quand tu parles de l'holistique et c'est quelque chose avec lequel il faut composer dans le self-care, comment on fait pour se protéger des dérives qu'il peut y avoir éventuellement?
Je pense qu'il y a toujours eu des dérives. Enfin, le yoga, on a eu le Bikram qui est quand même ce qu'on connaît de plus dans les dérives. Enfin, ce qui est le plus connu, accessoirement, ce qui est le documentaire Netflix & Co. Mais comment est-ce qu'on se protège de ça? Mais c'est juste essayer de prendre ce qui nous fait du bien. J'ai pas de solution, mais en fait, je pense que si on tombe dans ces dérives, c'est qu'on est peut-être affaibli à un moment donné, ou que ça répond à des faiblesses, parce que je dis pas qu'on est faible quand on tombe dans ça, mais c'est que ça touche forcément une corde sensible. Et donc, comment ne pas tomber là-dedans? C'est de réussir à mettre de la distance, en fait, et pas croire la lithothérapie, c'est bien, mais il faut pas espérer que d'un seul coup, on va perdre toutes ses rides, ou que d'un seul coup, notre glow va ressortir parce qu'on aura du quartz rose dans les mains, quoi. Enfin, c'est...
J'ai une petite anecdote à propos de ça, parce que, je sais pas, j'ai eu des moments un peu de faiblesse où je me disais, ouais, peut-être qu'en fait, c'est ça la solution, je vais acheter des pierres, etc. Et quand je me suis retrouvée sur Amazon, en train de voir s'il y avait pas du quartz rose au moins cher, j'étais là, mais Marie, Amazon, c'est tout ce qui va pas dans notre monde.
C'est ça.
Tu penses que ça va donner la petite solution dans ton petit appart à Paris? Je sais pas, moi j'ai un peu ce truc-là à chaque fois qu'on me dit, mais faut prendre soin de soi et peu importe la manière, je me dis toujours, attends, c'est quoi leur intérêt à me dire ça? Parce que, évidemment qu'il y a un intérêt quelque part, et on est dans un monde capitaliste, alors c'est peut-être qu'ils veulent juste faire de la thune sur moi. Non, désolée, j'ai refusé j'ai pas acheté sur Amazon des pierres qui sont en plus probablement pas les pierres dites dans la description.
Oui, et puis en plus il y a tout l'aspect écologique derrière qui est aussi dramatique, mais on va pas revenir là-dessus, mais c'est sûr que oui. Amazon lithothérapie, non, je ferai pas non plus.
Appelez une copine si vous êtes sur Amazon en train de regarder Quartz Rose.
C'est ça,
il y a des boutiques spécialisées, il y a des trucs.
Oui.
Toi, en tant que journaliste, en fait, je te pose la question, parce que tu interviews des gens, tu en parles B, en l'occurrence, tu t'intéresses à ce que les gens ont proposé de nouveau aussi sur cette question du bien-être. Il n'y a pas des fois où tu te dis, ah là, je pense qu'on est un peu limite, ou là, je pense que quelqu'un d'un peu, un peu fragile, peut-être, probablement, oui, pourrait partir dans quelque chose de négatif.
Alors, je me dis pas ça dans ce sens-là. Moi, je me dis surtout parce que c'est vrai qu'il y a un nombre de marques qui... Enfin, ça explose. Le marché de la cosmétique est énorme, et notamment du naturel et du... ça regroupe tout ça, qui est vraiment en pleine expansion. Et donc, je reçois un nombre de propositions de marques qui naissent et qui a trouvé le truc le plus incroyable, et qu'ils ont inventé la pierre miracle ou le produit miracle. Bon, clairement, je ne donne absolument pas suite, et il y en a beaucoup. Il y en a énormément. C'est juste, moi aussi, mon rôle en tant que journaliste, c'est de essayer de faire un peu le tri et d'analyser en amont, ce qui est un métier de journaliste, en fait, c'est quand même, même si ça reste de la beauté et du superficiel, entre guillemets, quand même, d'être sûr de ce que je mets en avant et de ce dont je parle. Donc, si la marque, elle me promet monts et merveilles et que j'y crois pas, je ne la mets pas en avant.
Tu penses que c'est une question de promesse aussi? C'est qu'il faut juste dire passer un bon moment avec toi-même, c'est déjà le max.
Ouais, bah oui.
C'est un truc que tu peux faire assez gratuitement au final.
Non, mais tu peux le faire complètement gratuitement. T'as même pas besoin de produits. Comme tu disais, c'est Marie, c'est de ne rien faire.
Ou aller au marché, prendre des fruits, des légumes et faire des trucs vraiment là, naturels.
Alors moi, je sais très moi, mais dans ma tête, je dis oui, bah, juste tu te masturbes et t'es cool, quoi.
aussi.
Ça peut, en fait. Et on est équipé pour aussi. J'ai une question là-dessus. Pourquoi ça concerne pas les hommes vraiment? Tout le monde a envie de se sentir bien. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est pas quelque chose de genré. On a envie de se sentir bien, de se sentir même séduisante. Enfin, je pense que ça, pour le coup, aussi un peu. Pourquoi le self-care, ça semble être une chasse gardée des femmes?
Bah, c'est culturel, déjà. Je me suis aussi posé la question. Il y a des pays où le maquillage est absolument totalement toléré sur les hommes, voire recommandé. Hein. En Asie, les hommes se maquillent. Au Japon, les hommes se maquillent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment culturel et c'est une question d'époque. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, à l'époque des rois, les hommes se maquillaient et prenaient soin d'eux et se parfumaient. Bon, aussi pour des raisons d'odeur, mais je veux dire, c'est des époques, en fait. Et là, moi, je pense que les hommes assument de plus en plus. Et j'ai cette conversation avec des amis. Hein, et il y en a qui me disent, oh, Noline, je peux en parler qu'à toi parce que bon, bah, tu parles beauté, donc tu vas me comprendre. Mais là, je suis allée à tel endroit, j'ai découvert, tu sais, ce truc-là qui gratte un peu la peau et puis ça te fait ensuite une peau toute douce. Alors, je dis, oui, un gommage. Voilà. Je dis, oui, c'est ça, le gommage. Il me dit, ouais, c'est incroyable. C'est génial, mais je peux en parler qu'avec toi. Mais je... ben non. Il me dit, bah, tu sais, j'évolue. En l'occurrence, il évolue dans le milieu du rap. Et je me rends compte, je peux pas en parler avec les mecs qui sont autour de moi. Je me dis, tu plaisantes. Les mecs qui ont un métier d'image, ils prennent évidemment soin d'eux, en fait. Et surtout en ce moment, c'est juste que peut-être qu'ils l'assument pas encore. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est admis, quoi. Et il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est des représentations.
Bah, c'est dans la série Friends. À un moment, la vanne, c'est que Chandler a emprunté la crème hydratante dans des personnages féminins. Et c'est genre la honte. Pourquoi tu l'as dit? Faut pas le préciser. Ça évolue, mais je pense que le self-care, en tout cas le bien-être, etc., ça s'est adressé principalement aux femmes, mais même. Et pas aux hommes, même qu'une partie des femmes. En tant que femme grosse, je me sens pas représentée dans les campagnes de publicité, même pour le sport par exemple, parce que la première chose qu'on dit quand on est une personne grosse, c'est « pourquoi tu fais pas un peu de sport ?» C'est tout simple d'aller courir, bon. Mais même les pubs de salles de sport, etc., les fringues pour faire du sport s'arrêtent à certaines tailles, donc même ces trucs-là s'adressent pas à moi. Donc ça élimine déjà une partie des gens. Alors je suppose, je sais pas dans quel sens c'est allé. Est-ce que c'est la pub qui fait que je me sens pas représentée, du coup ça m'intéresse pas, ou ils pensent que ça n'intéresse pas les hommes, je sais pas dans quel sens c'est allé. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a un gros problème de représentation, et même si je pense que des marques essaient de faire un effort depuis quelques temps, je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas encore assez de représentation au sens large du terme, hein. Je comprends ce que tu veux dire.
J'ai fait le parallèle tout à l'heure, mais ça pose aussi la question de la séduction, parce que du coup, pour moi, le côté self-care, c'est aussi le côté donc se sentir belle. Se sentir belle pour qui? Pour soi, pour l'autre, alors surtout pour l'autre en l'occurrence. Et le self-care, finalement, qui était ce truc un peu genre pour kiffer chez soi, bah c'est aussi, on se dit, ah oui, ce gommage incroyable va me faire une peau de bébé, je vais gagner 10 ans, va faire un peeling incroyable et tout, et trop bien. Et du coup, au final, on se retrouve à se dire, bah je fais ça moins pour moi que pour performer ensuite socialement, que pour pouvoir dire que j'ai pris du temps pour moi, que pour pouvoir aussi être plus séduisante vis-à-vis, bon, bah, en l'occurrence, dans le cadre d'une société très hétérosexuelle pour les hommes. Et on est encore moins sur la question de pour soi, en fait, de prendre vraiment le temps pour soi, hors de la performance. Pour moi, le problème du self-care aujourd'hui, il l'a été aussi beaucoup sur la question, bah, comme on fait avec tout, en fait. On le fait aujourd'hui avec tout dans notre société, on le performe. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah alors voilà, alors cette semaine, j'ai fait 3 heures de yoga, j'ai fait 2 heures de running, j'ai acheté les meilleures nouvelles crèmes, et j'ai été voir 7 esthéticiens trop bien. Et au final, c'est ça, en fait. C'est un peu une liste de trucs à faire pour être une femme correcte dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, effectivement assez normée. Et je découvre, parce que moi, j'ai les cheveux rasés, et donc, du coup, je découvre le fait que je ne peux plus acheter de produits pour mes cheveux. Et que même si je m'en foutais profondément, j'avais le sentiment que je pouvais continuer à acheter d'autres produits que je n'avais pas encore dans ma salle de bain. Et donc là, je me dis, oh là là, tout un pan de la féminité qui n'est plus accessible. Et alors qu'en réalité, je vis extrêmement bien le fait de ne plus avoir de cheveux. Mais il y a quand même une petite partie, bah, la personne qui a donc 36 ans et qui a grandi dans une société basée là-dessus, où c'est important de continuer à acheter justement des produits, mais quand on n'en a pas besoin, de continuer à consommer. C'est des espèces de petits deuils comme ça, de soi et de ce qu'on représente, qui sont difficiles, et ça nous confronte à une société donc très, très hétéronormative, très normative tout court. Et donc ma question aussi par rapport à cette question du self-care, c'était, est-ce est-ce que c'est pas un ajout supplémentaire sur notre temps libre? Parce que du coup, on a le temps à s'occuper des compagnons, des enfants et de la famille, des proches. Et finalement, quand on est à la maison maintenant, on doit maintenant s'occuper de soi pour rajouter une charge supplémentaire, quoi.
Ou alors, est-ce qu'on faisait déjà pas tout ça, sauf que c'était pour les mecs, ou c'était pour plaire, ou c'était pour aller au boulot? Et maintenant, on le fait toujours, mais on pense que c'est pour nous. Non, parce que ça m'a fait penser à un truc, typiquement l'épilation. À 18 ans, je pensais sincèrement, alors que j'avais pas de vie sexuelle et tout, et je pensais sincèrement que c'était pour moi. Genre non, j'aime pas les poils, c'est pour moi. Et j'ai encore des copines qui tiennent ce discours en disant...
Et moi-même, je me pose encore cette question.
Il y a plein de gens
moi.
Qui...
Mais tu sais pas.
Mais en soi, est-ce que dans un monde où l'épilation n'existe pas, on se serait posé cette question de se les enlever ou non? Et c'est vraiment au moment où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que moi, il me dérange? Parce qu'après, effectivement, si c'est un truc qui dérange, chacun fait bien ce qu'il veut vraiment. Je ne milite pas pour que les gens ne s'épilent pas ou s'épilent, j'ai pas d'avis. Mais personnellement, j'ai juste arrêté de m'épiler certaines parties du corps et en fait, je m'en fous, mais c'est trop bien. Et en plus de ça, j'économise la dame qui fout de la cire chaude sur mon pubis, là. Aïe, c'est bon. Et donc.
Mais tu peux plus acheter les kits pour faire des petits cœurs avec tes poils pubiens, là.
Tu crois que ça doit encore exister?
Ça existe encore, mais si tu arrêtes de t'épiler zone, et tu ne peux plus acheter toutes
sinon,
les merdes qui existent.
J'aurais vraiment bien le truc pour pouvoir faire le cœur parfait. Parce que j'aurais assez de poils. Ils n'ont pas été... Ils n'ont pas disparu avec l'épilation.
Moi, c'est vrai que j'ai cette ambivalence parce qu'il y a une partie de ces produits qui sont fun. C'est un peu comme le fait de se dire, oh là là, donc ma routine le soir consiste en 5 produits qu'il faut se mettre dans l'ordre. J'ai été acheter des trucs récemment et on m'a dit, vous pensez bien mettre votre tonique après votre démaquillant? Et j'étais là, genre, et après le sérum, mais t'as la crème dans le sérum. Et moi, je suis là, oh putain, je vais jamais y arriver. Alors du coup, j'ai un peu comme chez le coiffeur, j'ai l'impression que je suis jugée sur mon incapacité à me rappeler des étapes et à le faire bien tous les soirs. Et pour moi, il y a quand même ce truc de plaisir. Ce que tu dis, Noline, tu parlais de parfums aussi, de choses qui sont agréables sensoriellement. C'est kiffant de sentir ses poils, enfin ses jambes sans poils, et de se mettre dans des draps frais comme ça. Ouais. C'est kiffant de se mettre une crème qui sent très bon ou qui a une très belle texture, ou de se faire de la merde avec le corps, genre des poils en forme de cœur. On pouvait aussi se décolorer, se mettre des couleurs de trucs, se mettre des paillettes à des endroits, s'amuser en fait avec son corps qui pourrait être notre espace de jeu en fait. Et cette ambivalence-là, elle est compliquée à gérer.
Je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple, moi, j'ai des faux ongles très longs qui sont tout le temps faits. Je me maquille très, très régulièrement. J'ai énormément de produits de maquillage. Évidemment que c'est un truc d'éducation, on m'a appris à aimer ça, mais le fait est que j'adore ça. J'adore me maquiller, me foutre des paillettes partout et du rose partout. Et justement, moi, c'est au moment où je me suis rendu compte que j'allais vers de l'hyperféminité, que je le faisais pas pour les hommes. Parce qu'en fait... Moi qui suis une femme hétéro et qui donc a été éduquée à devoir être validée par les hommes, en tout cas à Paris, ne sont pas attirés par ces attraits d'hyperféminité. La femme, elle doit être maquillée, mais pas trop. C'est les cheveux un peu détachés, mais pas... Tout est un peu moyen. Moi, il n'y a rien qui est au compteur 10 sur 20. Je suis à 20 sur 20 sur tout. 20 sur 20 sur les paillettes, 20 sur 20 sur les ongles. Trop de maquillage. Et j'étais là, ah non, mais en fait, je ne fais vraiment pas ça pour les mecs, puisque je vois bien que beaucoup ont été éduqués à ne pas aimer ces ongles longs et roses. Mais moi, je les aime et je les garde.
Moi, je suis d'accord. C'est qu'en fait, je pense que je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a forcément un peu de charge mentale quand on te dit qu'il faut tant de produits accumulés sur le visage et que si tu loupes un truc, bah, tu vas te choper une ridule quelque part. Bon, je peux comprendre cette pression. Et comme il y a énormément d'informations sur le sujet du fait des réseaux sociaux, de YouTube & Co, où du coup, tu as des tutos à n'en plus savoir que faire. En effet, je pense que tu peux dire « Ah, bah, y a tellement d'infos que je peux plus me tromper ou ne pas savoir. » Mais en réalité, je pense que, ok, t'as ces infos-là, t'en fais ensuite ce que tu veux. C'est peut-être facile à dire, hein, je sais pas, sûrement. Mais je me dis, bon, bah, réussir à se défaire de ce discours et à dire, il est bien, il est là, bien ou pas bien, enfin, en tout cas, il est existant. Et ensuite, de l'adapter à moi. Et comme Marie dit, c'est que, en fait, bah, si t'adores avoir les ongles longs, et bah, tu le fais. J'avais parlé avec une facialiste. Alors, ça, c'est le grand mot en ce moment. On est à fond. Bah, voilà.
C'est vrai, c'est comme les mixologistes, il y a des facialistes.
Ouais, les facialistes, ça vient tout droit des pays anglo-saxons. Et là, ça cartonne en France. Et cette personne-là, je l'adore. Et elle m'avait dit, le facialiste, donc, c'est vraiment faire des massages quand t'appliques tes soins. Tu les appliques en faisant des massages particuliers pour que, du coup, tu les actives, pénètrent très bien. Et bon, voilà. Finalement, quand on se penche sur le sujet, c'est assez intéressant parce que en fait, t'apprends que bah tu peux te lisser un petit peu une ridule ou quoi, enfin de te décongestionner. Bon, pardon, je rentre trop dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant en soi. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très bien, c'est qu'elle m'a dit, Le problème, quand on se regardait dans le miroir, c'était pour corriger quelque chose. Pour corriger des cheveux pas bien peignés ou si t'as mal rentré ta chemise dans ton pantalon. Enfin, quand tu te regardais dans le miroir, c'était pour corriger un truc. Elle m'a dit non, là, ce qu'il faut, c'est que tu te regardes dans le miroir pour t'apprécier et pour te voir toi. Et elle, ce qu'elle voyait dans les massages du visage, c'était de réapprendre tes contours et réapprendre ton visage et te réapprendre toi. Et en fonction de ça, de te réapprendre et de te réapproprier ton corps, eh ben, tu adaptes tes soins et tu adaptes ta routine. Et c'est à partir de là que vraiment, le self-care, c'est vraiment, tu prends soin de toi. Et voilà, cette idée de pas se regarder en se jugeant et pour juste apprécier ses contours et mieux savoir comment bien gérer tes besoins à toi.
Pas forcément besoin ni de produits, ni de...
Oui, non, mais voilà.
C'est ça qui est chouette. Si on prend le self-care comme ça, il y a en plus de ça besoin que de ses yeux et de soi-même, quoi.
C'est vrai que ça oblige à une approche qui va être quasiment anti-consumériste, ou en tout cas d'essayer de faire au moins possible, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais ça nécessite encore une fois cette déconstruction de « j'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour un résultat
».
Parce qu'on se dit aussi quand même que donc la crème très chère va faire plus effet que la crème pas chère. On sait aujourd'hui en plus avec les études que c'est faux.
Ouais.
Et où le cours hyper chiant où tout le monde veut aller va être plus efficace que le cours à côté de chez toi, où il y a que des vieux mais qui marchent aussi bien. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se déconstruise aussi, quoi. Mais qui sont liées à notre éducation, pour le coup, liées aux médias, liées à la société en général.
C'est ça, je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance. C'est-à-dire que c'est pas parce que X personnes disent qu'il faut faire ça ou ça qu'il faut que tu le fasses. Fais-le que si t'as envie et si tu peux le faire. Enfin, je veux dire, réussir à se détacher. Mais c'est très dur, hein.
Ça oblige à un amour de soi que beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas, surtout dans une société où on a été conformés à être ce qu'on n'était pas du tout. Faire ce travail sur soi de, en fait, finalement, je m'aime, alors que vraiment, on m'a appris tous les jours, toute ma putain de vie, que je ne pouvais pas m'aimer parce que je ne ressemblais à rien. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui pour plein de femmes, on peut l'imaginer, d'où le fait que le self-care peut être aussi pris comme une façon de essayer de se modifier, essayer de se changer pour être mieux, genre un peu un moi en mieux, sur lequel on a du mal à mettre même aussi des images, parce que ça peut lier à aller jusqu'à une dysmorphophobie, en fait, assez clairement. C'est pour ça que c'est très intéressant, cette histoire de facialiste qui essaye de te pousser à te montrer à quoi tu ressembles, parce que là, aujourd'hui, on en est quand même, beaucoup d'entre nous en sont très éloignés.
L'idée d'apprécier ses contours, et c'est aussi pour d'apprendre à se connaître, c'est aussi dans un but de, si tu te connais mieux, dans ce cas, tu vas aller vers les bons soins, et économiquement, tu t'y retrouves plus, parce que si tu te mets à acheter toutes les crèmes, mais tu vois que sur 10 crèmes que t'as achetées, elles te conviennent pas, bah, t'auras quand même dépensé 10 fois de l'argent pour des crèmes qui te vont pas et que t'auras jeté. Donc, l'idée, c'est aussi de se réapproprier son corps et ce qu'on a envie, de se connaître, d'apprendre à se connaître pour aller aussi vers de meilleurs achats. J'ai l'impression qu'on va un tout petit peu vers ça, mais c'est peut-être encore...
C'est le début, quoi.
Léger.
J'ai une question pour toi, justement. Toi qui bosses là-dedans et qui est dedans toute la journée, est-ce que t'es pas la reine de la charge mentale de la beauté, quoi ? Parce que du coup, quand tu es toute la journée dedans et que tu connais toutes les facialistes de Paris ou toutes les nouvelles tendances et les produits, est-ce que quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis « Bon, alors maintenant, je vais faire ma routine en 15 gestes pour être parfaite et être exactement comme ce qu'il faut et tout. » Est-ce que t'arrives à te détacher de ça ?
Alors déjà, moi, souvent, mes copines, elles me demandent « C'est quoi le truc ? C'est quoi la dernière tendance ?» Et à chaque fois, je dis « Je sais pas. » Voilà, donc c'est super, je suis pas hyper vendeur, je pense qu'après on a pu me faire confiance à cette journaliste. C'est en fait, comme je suis pas dans l'injonction, j'ai pas envie de l'être, j'arrive pas à... Moi, ce qui me plaît à moi ne va pas forcément plaire aux autres. Alors non, honnêtement, je crois que je me mets pas trop de pression. Parfois, je me dis « Ouais, ça fait quand même longtemps que tu t'es pas fait un gommage. » En vrai, comme je fume, bah, je me dis « Ouais, là, c'est quand même pas terrible, fais-le. » Et en vrai, je suis contente. J'avoue, hier c'était dimanche, j'ai passé mon après-midi à le faire, mais ça faisait des mois que j'avais pas fait ça. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de me dire « J'ai pris du temps. » Mais je crois pas m'imposer quoi que ce soit.
T'arrives à faire la part des choses, même malgré tout ce que t'entends dans ton travail ?
Alors, j'arrive à faire la part des choses pour le maquillage et pour le soin, mais par contre, pas pour le sport. J'avoue que le sport, je me dis « Ah, quand même, tu déconnes, quoi. » Parce que je fous rien. Et que je me dis que c'est abusé pour ma santé. Et qu'en plus de ça, j'écris des articles formes où je dis « Il faut faire du sport pour te faire du bien à ta santé. » Et pas pour maigrir, c'est pas l'idée, mais pour que, même pour ton mental, ton psychique, parce que c'est reconnu que ça fait du bien, normalement. Je fais rien de tout ça.
Donc, on peut pas tout faire.
Non.
Il faut pas s'en vouloir.
C'est ce que je me dis.
Mais du coup, tu t'en veux parce que t'essayes de t'en vouloir et que t'arrives pas à pas t'en vouloir. Et du coup, tu culpabilises parce que tu culpabilises. Et là, c'est le cercle vicieux.
Infernal.
Le cercle infernal.
C'est ça. Et donc, je sais, quand je me dis que je m'en veux parce que je suis pas allée au yoga depuis X temps, ben, je me dis non, Noline, t'as le droit de pas y être allée pendant X temps. Et puis en même temps, l'autre voix qui dit non, Noline, arrête. Là, tu te cherches des excuses pourries. C'est juste que t'as la flemme. Et à un moment donné, il faut quand même y aller, quoi.
On est très autosuffisant pour faire tous les dialogues dans nos têtes aussi. C'est ce truc de
la reine
du self-care aussi là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment genre oui, alors bon, alors c'est il y a un truc qui va pas, donc c'est forcément de ma faute. Donc comment je vais y arriver, machin, comment je peux arranger tel truc. Et en fait au final, on se rend compte que les trois quarts du temps, c'est pas du tout de notre faute ou qu'on peut rien faire pour changer de cette situation. Je le vois beaucoup dans mon travail à moi. Sur en l'occurrence beaucoup le relationnel et le couple, c'est souvent le cas et c'est le cas aussi je trouve dans le self-care, se dire je racontais dans un des podcasts dans un des compliqué, que j'ai passé tout l'été avec un masque pour le visage dans ma valise.
Oui, j'ai entendu.
Je suis partie en vacances en me disant, allez, je mets un masque pour le visage dans ma valise, j'ai envie de le faire. En plus, j'étais vraiment très motivée. Et puis, je suis partie à plein d'endroits différents pour plein de raisons différentes et je n'ai jamais réussi à le faire. Et à chaque fois que j'ouvrais ma valise pour enlever les fringues sales et mettre des fringues propres, je me disais, mais t'es une merde de pas réussir à faire un masque. Et je m'en voulais. Et je me disais, mais quel genre de femme tu es? Et en plus, tu commences à vieillir, donc tu vas avoir des rides, donc il faut faire des masques. En plus, c'est le degré zéro du masque, c'est un masque en tissu, donc c'est vraiment pas un truc qui est vraiment très chiant à faire. Faut juste prendre 10 minutes. C'est plus pratique qu'une crème, je trouve.
Moi, je déconseille justement pour ça le tissu, parce que t'es obligée de rester...
Sans
rien faire, allongé. Alors que si tu te mets un masque en crème, au moins tu peux bouger, quoi.
C'était justement ça qui me bloquait, je pense. C'était le fait de pas avoir 10 minutes pour me poser. Mais quelque part, je me disais, c'est un échec humain de pas avoir 10 minutes de tout l'été où j'avais des vacances, de pas réussir à trouver 10 minutes. Et c'était même pas pour faire des trucs plus kiffants, c'était parce qu'il y avait des obligations de travail d'enfant, de trucs de la vie, quoi. Et ces 10 minutes sans rien faire, je les ai pas trouvées. Et ça a été un constat d'échec que j'ai traîné et que je me suis forcée à traîner. Parce qu'au bout de la deuxième fois, j'aurais pu dire, non, mais je le vire de ma valise. J'aurais pas le temps.
Et c'était,
le regardais, on se regardait mutuellement. Ouais.
Mais pour toi, c'était pas grave de pas avoir pris le temps.
Mais ça aurait pu. Mais c'est devenu un truc extrêmement fort.
Parce que tu l'as associé à ça, en fait. T'as associé ce masque à la prise de temps pour toi. Et t'as, du coup,
un échec, et un constat d'échec qui est devenu un constat d'échec général.
Ah ouais,
quelle vie tu mènes, quel échec est ta vie. Et vraiment, mais c'est devenu absurde. C'était un pauvre masque Sephora en tissu. On était vraiment dans un truc qu'on avait dû m'offrir pour mon anniversaire. C'était vraiment, genre, vraiment le degré zéro du masque qu'ils offrent tous les ans à tout le monde pour leur anniversaire. Ouais, c'est devenu, mais je l'ai analysé après. Donc en fait, c'est pas quelque chose que là, je dis en disant, mais le masque m'a jugée. Et il a décidé que je n'étais pas une bonne personne. C'est moi-même, toute seule, je me suis fait ce dialogue de quasiment ce masque est devenu une personne qui est devenue une personne extrêmement méchante et négative et qui me jugeait. Et quelque part, parfois, quand on voit toutes les crèmes qu'on a dans notre salle de bain, parce que souvent on les fout au milieu à côté du lavabo, là, donc on les voit souvent. Moi, je cache les trucs que j'utilise jamais. J'aime bien genre, là où il y a des placards et tout, les gommages qui coûtent 100 balles, là, les trucs que jamais tu fais, je les cache un peu en me disant j'y penserai un jour.
Tu t'en sers jamais au final?
Non! Mais aussi parce que, en fait, j'avais pas l'utilité au départ. Parce qu'en fait, un gommage, tu peux te le faire avec une poignée de sucre et un peu de miel et tu te fais un gommage et ça marche très bien. Et c'est ce que je conseille aujourd'hui aux amis. C'est que je leur dis, mais en fait, en vrai, la plupart de mes produits, tu peux le faire avec vraiment une cuillère d'huile d'olive. Tu fous du miel, tu fous du sucre ou du sel. Ça fait un gommage, c'est génial. Ça fait aussi un masque pour les cheveux. Ça fait aussi. Et c'est des choses qui permettent aussi de toucher aussi plus de monde. Parce que aussi, la question de sociale est vraiment très, très forte dans le CFK. Et ça m'a beaucoup gênée. Avec les années, c'est-à-dire que moins j'avais le temps de m'occuper de moi, et plus je voulais performer ce truc du self-care, plus je voulais y mettre de l'argent, de l'énergie, je voulais le faire le mieux possible, et c'est devenu vraiment une reproduction, en fait, de clichés. C'est ça qui est inquiétant. Marie, est-ce que tu arrives à ne pas reproduire ces clichés?
C'est marrant parce que tout ce que tu décrivais, c'est vraiment comme... C'est... Ma mère, elle est pareille. Ma mère a un milliard de produits.
Je le prends mal, même si je suis sûre que ta mère
est
cool.
Alors, ma mère est incroyablement cool. Mais je l'ai toujours vue avec un milliard de crèmes. Ma mère bossait énormément, plus trois enfants, quasi toute seule. Enfin bref, vraiment une queen. Mais voilà, il y avait les 4 heures du dimanche où c'était le bain chaud, les crèmes de partout, le maquillage, etc. Et moi, j'ai pas du tout reproduit ce truc-là. Faut savoir que je me douche car j'aime me laver, avoir les cheveux propres, etc. Mais on m'a toujours dit, il faut mettre de la crème pour le corps, pour avoir la peau douce. Ah oui, bon, ouais, m'en fous. Ça me saoule, ça poisse tout le temps. J'ai pas envie de me mettre de la crème partout sur le corps, ça me dégoûte. Voilà, j'ai 3 produits de soins qui me conviennent et qui me correspondent. Donc, j'ai pas du tout le truc de devoir acheter des produits de beauté ou des... Et je sais pas si j'ai voulu juste me construire en opposition avec ma mère ou tout le travail que j'ai fait en étant une femme grosse il y a voilà, c'est pas évident pour tout le monde d'être hors norme, mais je sais que moi mon chemin ça a été vraiment de m'aimer très profondément, d'aller voir une putain de psy pendant très longtemps et ça c'est un temps pour moi et un coût hein, aussi financier d'aller voir une psy qui du coup fait peut-être que je n'ai pas l'argent pour les produits de beauté à la fin du mois, mais j'ai l'argent pour aller voir la psy. Mais du coup, moi, quand je me mate dans le miroir, je vois jamais les sécheresses sur ma peau, et je les vois pas chez les autres non plus. C'est pour ça que quand je suis avec des copines qui sont là, mais si, tu vois pas que là, il y a le petit, je fais vraiment ton bouton, t'aurais pu, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais attends, quand même, Marie, Jean-Luc Reichmann a une tache de vin, ça se voit. Moi, ah bon? Attends, je ne l'ai pas vu, quoi. Et donc, je vois pas chez les autres non plus. En tout cas, chez moi, enfin, vous me dites, les gars, s'il faut que j'ai besoin d'une crème hydratante, n'hésitez pas à me faire un petit coup de coude. Et ben, je ne fais rien et je mange pas très bien et je fume des clopes. Ne suivez pas les conseils de Marie.
Oui, mais tu vas bien.
C'est ça et ça se ressent.
Par contre, je vais bien. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est un luxe. Hein.
Bah, de ouf. T'as pas des masques qui t'engueulent dans ta valise.
Effectivement, je n'ai pas le masque dans la valise qui m'engueule.
C'est marrant que tu dis ça parce que moi non plus je le vois pas. C'est-à-dire que effectivement ce truc de la femme qui performe sa féminité, qui doit être très belle, qui doit être maquillée, mais qui doit être naturelle aussi, qui doit. Et ben en fait moi je c'est pas ça que je vois chez les femmes. Enfin pour le coup moi je suis une femme bisexuelle donc du coup je peux voir les femmes d'une manière plus sexuelle. Mais je me dis pas il faudrait qu'elle change de crème. Je pense que c'est pas la bonne crème qu'elle utilise pour le jour. Ou elle fait mal son trait d'eyeliner. Ou vraiment pas du tout. Ou ses cheveux sont un peu secs.
Mais les gens se matent eux-mêmes. On est focus sur nos propres défauts et complexes. On voit jamais.
Je vois des trucs super beaux et un glow et des trucs cool et je suis admirative. Moi je dis souvent aux autres, d'ailleurs c'est important de se le dire entre nous aussi, meuf t'es tellement bien maquillée aujourd'hui ou t'es tellement belle ou j'adore ton teint. Oui, on se dit ça. On se dit vraiment ça.
Non, mais pour de vrai.
Mais il faut le faire.
Moi, ça fait 10 piges que j'ai la même phrase, le même mantra. Et ça vient pas de moi. C'est Navi SML qui avait des podcasts quand j'avais 17 ans, etc. C'est soit ton propre pote. Jamais je dirais à une pote, oula, ça a l'air fatigué, meuf, va falloir faire quelque chose. C'est quand même pas beau, là. Puis tous tes boutons, c'est immonde. Je dirais jamais ça à quelqu'un. Pourquoi est-ce que je dirais me le dire à moi-même? Et alors, c'est hyper efficace, hein.
Il faut que je prenne ce conseil. Je vais le mettre contre mon cœur. Toi, Noline, tu y arrives. Même si tu t'engueules de pas faire trop de yoga.
Je sais pas si j'y arrive parce que je suis, je pense, très dure avec moi quand même. Et par exemple, typiquement, quand j'ai arrêté la pilule il y a 5 ans, je me suis mise à avoir de l'acné alors que j'en avais jamais eu. Et avoir de l'acné quand t'as 26, 27 ans, âge où potentiellement t'as pas d'acné. En plus de ça, en étant journaliste beauté, clairement, j'étais odieuse avec moi-même. J'avais honte, je pleurais, j'étais vraiment mal dans ma peau. Je me suis dit, mais je peux pas aller me présenter à une présentation presse alors que j'ai des boutons, alors que je suis une journaliste beauté. Bah si, en fait. Enfin, déjà parce qu'on est toutes on a toutes le même problème, que c'est vraiment un problème générationnel. Donc j'ai fait un travail sur ça. Et aussi, j'ai fait un travail sur le fait que j'assume et que j'en parle. Et le nombre de nanas qui m'ont écrit, notamment j'en avais parlé dans un... À l'époque, je travaillais dans un hebdomadaire extrêmement lu. Une page où chacune des journalistes disait pourquoi elle avait un coup de cœur sur tel produit. Et moi, j'avais expliqué pourquoi j'avais mis à aimer ce produit, parce que j'avais des problèmes de peau à ce moment-là. Et le nombre de personnes qui m'avaient écrit pour me dire mais oh, t'as assumé de dire que t'avais des boutons alors que tu es journaliste beauté. Et j'étais oui. Et en fait, en prenant conscience de ça, bah du coup, j'étais beaucoup plus cool avec moi-même. Alors je dis pas quand j'ai un bouton qui arrive, je suis en train de pester, je me dis comme ça. Mais je crois que j'essaie d'être plus sympa avec moi quand même. Mais c'est un vrai travail de tous les jours.
C'est un peu le truc cool du body posi, du body positivisme, c'est que il y a de plus en plus de nanas qui montrent leur 10 défauts, mais en tout cas qui ne les cachent plus, qui n'en ont pas honte. Joy Phoenix, elle a montré ses problèmes d'acné. Elle avait des problèmes d'acné hyper sévères en plus de ça, où ça la défigurait. Donc ça a été quelque chose de hyper fort qu'une nana de 25 ans, qui est hyper suivie et qui est suivie parce qu'elle fait du lifestyle, beauté, etc. Elle dit, bah voilà, regardez ma tête quand j'ai pas de maquillage, c'est ça. Il faut qu'on en parle parce que on est vraiment nombreux dans ce cas-là. C'est le côté cool des réseaux et du positivisme.
C'est bien, on est en train de ressortir des côtés cool d'Internet des médias en général et du fait oui, il y en a. Il faut faire le tri avec tous les aspects négatifs aussi et c'est ça qui est difficile, quoi.
Ce côté body positive ou bienveillance à l'extrême ou il faut que toujours tout aille bien, etc. Ça peut être l'inverse. Moi, par exemple, j'en suis à me dire... d'assumer quand ça ne va pas, en fait. Hein, de dire, bah non, en fait, là, j'ai pas le moral. Et là, franchement, j'ai pas envie de dire que ça va, quoi. Parce que aujourd'hui, il faut tout le temps dire que tout va bien. Ouais, Non, t'as le droit de dire que ça va pas, en fait.
Complètement. Moi, je suis d'accord. Je vois tous les bons côtés des réseaux. Et par exemple, moi, je me définis pas comme quelqu'un de body positive parce que le body positive, à la base, c'était pour les personnes grosses. Après, c'est devenu tout le monde. On assume nos défauts. Et l'objet, c'est de dire, on est tous beaux, on est tous belles. C'est trop bien la beauté. Moi, vraiment, je l'ai dit déjà plein de fois dans plein d'interviews, mais qu'est-ce que je m'en fous qu'on me trouve belle ou pas? Moi, je milite pour qu'on ait les mêmes droits que tout le monde. Ce serait déjà pas mal et qu'on se fasse pas insulter. C'est juste ça. Après, qu'on ait envie de me ken ou pas. Ça ne me regarde pas, même si ça fait plaisir, mais ça ne me regarde quand même pas. Ça rajoute aussi de nouvelles injonctions, donc à aller bien et à prendre soin de soi.
C'est toujours la difficulté, et là on l'a dit, en fait, on navigue un peu entre deux eaux à chaque fois, entre ce qui est une injonction, ce qui n'est pas une injonction, entre le prendre soin de soi pour qui, pour soi ou pour quelqu'un d'autre, entre ce qui pourrait être aussi vu comme une façon d'aliéner les femmes, de les obliger à mettre encore plus de leur argent, de leur énergie dans des trucs qui servent à rien la plupart du temps. Il y a une interview de Virginie Despentes où elle a dit que quand elle était devenue lesbienne, elle s'était retirée de toute la question de l'hétéronormativité et donc fatalement de toute la question de la beauté et de l'énergie qu'on est censé y mettre. C'est assez intéressant de se dire aussi que ça peut être une façon d'aliéner les femmes et qu'il faut faire gaffe à ça. Mais aussi, on peut kiffer. Marie, c'est ce que tu disais avec tes ongles, qui sont vraiment des ongles de Barbie californienne hyper cool. Et c'est pour toi, quoi. Ouais. Et c'est aussi une appréciation de soi. C'est vraiment difficile de trouver ce chemin-là. Marie, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, sur un self-care et aussi, Noline, la thérapie, en fait. Le self-care n'est pas que prendre soin de son physique, prendre soin de sa santé mentale, c'est hyper important. Et peut-être que ça permet mieux de faire le tri aussi. De moins entendre ses petites voix, de pouvoir aussi réfléchir à ce qui est la société, ce qui est nous, ce qui est notre famille, notre histoire, parce qu'on se construit aussi avec l'histoire des femmes autour de nous.
Il y a plein de manières d'arriver à cette... Il y a la thérapie avec un psy, et donc ça coûte de l'argent, donc c'est un truc de privilégié au max. Ou alors, il faut faire comme moi, et du coup, ne pas avoir l'argent pour plein d'autres choses. Il y a plein d'autres manières d'arriver à parler de santé mentale en regardant des vidéos. Il y a des gens, c'est l'astrologie qui les font se poser des questions sur comment ils fonctionnent. Bah, que ce soit ce chemin-là, il peut être cool aussi.
Tant qu'on les oblige pas à sortir leur carte bleue ou que ça finit par virer à des trucs qui sont problématiques. Mais oui, effectivement, la mouvance de l'astrologie actuellement, en tout cas, je suis pas personnellement contre dans la mesure où ça pose la question de comment tu fonctionnes, de comment fonctionne l'autre, de comment on peut s'arranger pour vivre ensemble le mieux possible. Après, c'est vrai que c'est aussi reconnu comme une charge des femmes, celle de se poser la question de comment vivre dans un monde meilleur, comment être mieux dans son couple, comment... C'est là-dessus que les femmes achètent des livres, regardent des vidéos et se font chier. On revient toujours au truc de, en fait, quand tu fais une thérapie, tu fais aussi une thérapie pour tous les gens autour de toi qui ne font pas de thérapie. Donc souvent, ta mère et ton mec. Quand t'es
le père
hétéro.
Aussi, les gars.
Le père aussi, le père aussi. Il est plus absent, donc du coup, c'est pas à la limite.
Justement. On dit la girl with daddy issues.
C'est vrai aussi. Se dire aussi que le self-care, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du capitalisme, c'est plein de petits gestes, c'est aussi l'appréciation de soi.
Et c'est en ça que je te parlais de l'holistique. Mmh. C'est que, en fait, le tout, c'est pas que faire du sport, se mettre une crème, se maquiller, se brosser les cheveux. C'est aussi, et je pense que c'est surtout la santé mentale. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le bien-être aujourd'hui, parce que j'en ai aussi fait pas les frais, c'est pas, au contraire, c'est plutôt positif, mais à partir du moment où j'ai aussi pris soin de moi et que j'ai aussi suivi une thérapie, bah, ça m'a ouvert plein de portes. Et que j'ai voulu ouvrir ou non, certaines oui, et puis différemment à différents moments de ta vie en fait. Et ça te permet d'apprendre à te connaître et je trouve à être plus en accord avec toi-même et ça te permet aussi de te détacher beaucoup plus de ces injonctions à mon sens. Oui, enfin c'est comme ça que je vois les choses parce que bah t'as appris à t'aimer. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à t'accepter et
à constater qui tu es, comment tu fonctionnes et pour pas que ça t'emmerde trop dans ta vie, quoi.
Et c'est ça, c'est la santé mentale qui est essentielle.
Et savoir ce qui te fait vraiment du bien.
Ouais.
Donc, comme toi, Marie, écouter de la musique chez toi en pyjama.
Ouais, avec mon petit chat. J'ai un petit chat très mignon et on danse.
Le chat, c'est très self-care.
Ouais.
Merci à toutes les deux. Merci Marie, merci Noline.
Merci à toi.
Je rappelle que le documentaire de Marie, La grosse vie de Marie, est à retrouver sur France TV/, et que Parlons B, le podcast de Noline, est disponible sur toutes les plateformes de podcast, et que tu as aussi ton propre média, Marcel avec deux L, à retrouver sur Internet. C'était C'est compliqué, le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.